En ce dimanche, je vais vous lire dans la Bible l'histoire de l'inauguration du temple de Jérusalem par Salomon qui vient d'en achever la construction. Encore une fois, Salomon va demander quelque chose à Dieu. Alors la première fois, l'initiative venait de Dieu qui lui avait proposé de lui donner ce qu'il lui voulait. Salomon avait répondu sagement en demandant à Dieu d'avoir un cœur qui sache écouter. Et Dieu lui avait donné en plus la sagesse et l'intelligence. Cette fois-ci, la demande vient des hommes, de David et de son fils Salomon, qui viennent vers Dieu avec une demande complètement folle. Dans ce contexte, ils demandent à Dieu de venir habiter entre quatre murs pour qu'il l'ait sous la main, si je puis dire, quand ils auront besoin de lui pour les aider, pour leur pardonner. Alors c'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, que nous avons ce récit. Le roi Salomon assembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des Israélites, pour faire monter le coffre de l'Alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le septième mois, pendant la fête. Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les sacrificateurs portèrent le coffre. Ils firent monter le coffre de l'Éternel, la tente de la rencontre et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les firent monter. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël convoquée auprès de lui était devant le coffre. Ils sacrifièrent du petit et du gros bétail en si grand nombre qu'il ne peut être compté ni évalué. Les sacrificateurs apportèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans la pièce appelée le Saint des Saints, jusque sous les ailes des chérubins, car les chérubins déployaient les ailes au-dessus de l'emplacement du coffre. Les chérubins couvraient le coffre et ses barres, les barres qui servaient à le transporter, par-dessus. On avait donné aux barres qui servaient à le transporter une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint, devant le sanctuaire, là où se tenait le peuple, mais les barres ne se voyaient pas du dehors. Elles sont encore restées là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait rien d'autre dans le coffre que les deux tables de pierre que Moïse y déposa sur le mont Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel et les sacrificateurs ne purent plus y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité, j'ai enfin bâti une résidence pour toi, un lieu où tu habiteras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël était debout. Il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait promis. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'y soit bâtie une maison où résiderait mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il soit à la tête de mon peuple d'Israël. Et voilà, mon père David a eu à cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors l'Éternel dit à mon père David, « Puisque tu as à cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles. » Ce sera lui qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a tenu la parole qu'il avait dite. Je me suis levé à la place de mon père David, je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait promis l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé une place pour le coffre où se trouve l'alliance de l'Éternel, alliance qu'il a conclue avec nos pères quand il les fait sortir du pays d'Égypte. Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit, et ce que tu as dit de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta main. Et maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur chemin et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Et maintenant, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme donc la parole que tu as dite à ton serviteur, mon père David. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même te contenir. Combien moins, bien sûr, cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à la supplication qu'il t'adresse, pour écouter le cri et pour écouter la prière que ton serviteur t'adresse en ce jour. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Éternel, écoute la prière que ton serviteur fait en cet endroit. Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras. En ce lieu où tu sièges, dans les cieux, tu écouteras et tu pardonneras. Et je voudrais vous lire donc la page suivante au début du chapitre 9, trois versets qui est un peu la réponse de Dieu à la prière qu'adresse Salomon, mais je ne vous la lis pas entièrement, j'ai déjà lu peut-être un trop long récit. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il avait désiré faire selon son bon plaisir, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit « J'ai écouté ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. J'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » Et puis je voudrais vous lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, un passage où l'on voit Jésus parler du temple et agir dans le temple. Jean 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établi dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, des changeurs de monnaie. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent alors la parole et lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les disciples dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèverais ? » Mais Jésus parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus leur avait dites. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le cantique 175 dans le petit recueil « Adorons Dieu notre Père », les deux strophes de ce cantique 175. Seigneur, tu nous as promis ton esprit pour nous conduire dans la fidélité. Ouvre notre intelligence et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant ta parole, qu'elle nous donne à la fois une paix profonde et la soif d'avancer, qu'elle nous donne un enthousiasme de vivre et de faire vivre, que ta parole crée en nous un cœur de chair, un cœur capable d'aimer, un cœur rempli d'affection pour les frères et sœurs qui nous entourent. Dans sa prière, Salomon reconnaît que sa demande est extrêmement bizarre. Comment est-ce que l'Éternel, le Créateur de l'univers, le Dieu du ciel et de toute vie, pourrait venir habiter dans une maison? C'est fou, et c'est même injurieux pour Dieu dans un sens. Cela risque de le réduire à ses divinités domestiques que les peuples avaient parfois dans leur salon pour protéger leur famille. Mais ce n'est pas l'idée de Salomon, bien sûr. Il sait très bien que Dieu n'habitera pas physiquement en ce lieu. Salomon voit son temple avec un certain humour, finalement, comme un symbole pour aider les hommes à penser à Dieu, à ne pas l'oublier, et essayer de vraiment fonder leur espérance sur les promesses qu'il leur a données, sur l'aide qu'il leur apporte. C'est ce que Salomon dit à haute voix et à plusieurs reprises, à 7 ou 8 reprises, dans la longue prière, dans l'enseignement qu'il donne à son peuple. Il prie Dieu ainsi : « Éternel, exauce, s'il te plaît, la prière de ton serviteur et celle de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront vers ce lieu. Exauce leur prière, exauce-la du lieu où tu habites dans les cieux. Exauce-les, pardonne-leur, ramène-les, convertis-les, protège-les. » Salomon sait donc très bien que le temple n'est qu'un symbole pour aider les hommes à prier, à penser à Dieu, à compter sur lui, mais que Dieu est une réalité spirituelle qui dépasse infiniment les dimensions du temple et même celles de l'univers matériel. Alors c'est la première réserve que Salomon donne vis-à-vis de son temple, qu'il donne publiquement au moment solennel de l'inauguration du temple. Et il ajoute une deuxième réserve finalement en insistant sur le caractère transportable de ce coffre que Moïse a donné aux Hébreux. Et ce caractère léger et transportable du coffre avec ses barres qui servent à le porter contraste avec le caractère massif du temple que Salomon vient de construire. Salomon, on a l'impression qu'il fabrique même de nouvelles barres pour les poser sur le coffre. Il insiste sur ces barres, il dit qu'il faut les garder et il faut faire en sorte pour que ces barres soient bien visibles en permanence par ceux qui sont dans le temple. Le coffre et le temple sont ainsi deux symboles de la présence de Dieu pour accompagner le peuple, accompagner la vie des Hébreux, accompagner leur vie dans Israël et accompagner leur vie dans le désert grâce à l'aide de Dieu. Le coffre et le temple sont ainsi deux symboles de la présence de Dieu qui se complètent, qui se corrigent et qui se relativisent mutuellement. Salomon veut en même temps marquer le caractère immuable, magnifique, formidable de la fidélité de Dieu, de sa gloire, avec le lourd temple de pierre, avec les portes magnifiques, les chérubins en or et que sais-je. Mais il conserve l'idée de fragilité, de légèreté, de mobilité avec le coffre et ses barres qui servent à le transporter. À ces deux réserves, que fait Salomon pour relativiser l'importance du temple de Jérusalem ? Jésus en ajoute une troisième, nous l'avons entendu dans le texte que je vous ai lu. Le véritable temple de la présence de Dieu, ce n'est ni un coffre en bois d'acacia avec ses barres qui servent à le transporter, ni une formidable construction en pierre, en or et en je ne sais quoi, mais le véritable temple de Dieu, c'est le corps de l'être humain qui peut être empli du souffle même de Dieu. Le corps de l'être humain, simple créature matérielle et fragile, mais que Dieu a choisi pour y faire vivre son souffle. Pour Jésus également, le temple de Jérusalem n'est qu'un symbole qu'il utilise en tant que tel. Et donc quand Jésus agit avec force, comme nous l'avons vu dans le temple de Jérusalem, pour qu'il redevienne un lieu de prière et non un lieu de marchandage, de commerce, c'est notre temple intérieur, c'est notre relation à Dieu personnelle que Jésus veut purifier, bien sûr. Purifier de tout marchandage avec Dieu, pour que notre relation à Dieu redevienne une vraie prière à l'écoute de ce souffle qu'est la présence de Dieu au plus profond de notre être. Salomon ose donc essayer de créer ce symbole nouveau de la présence de Dieu qu'est le temple. Alors, symbole facile, bien entendu, puisque c'était très courant dans les autres religions de faire une maison où le Dieu habite, finalement. Symbole utile pour aider à prier, pour témoigner de ce Dieu qui est invisible, mais symbole risqué aussi. Symbole risqué pour nous qui sommes toujours, finalement, menacés de penser tenir Dieu entre nos mains, comme nous sommes d'ailleurs menacés d'oublier Dieu et d'en faire quelque chose de superflu. Là où Salomon est sage, c'est à la fois d'oser construire ce temple et de faire les réserves essentielles qui sont censées prémunir des risques qu'il présente. Et il fait ces réserves essentielles en les publiant très clairement, officiellement, solennellement, alors même qu'il inaugure ce temple dont il est si fier, dont il a de quoi être fier. Quelle sagesse et quelle humilité. Comme le montre Salomon en construisant ce temple, nous avons besoin de symboles, oui, pour servir de signes visibles aux réalités invisibles. Nous en avons besoin car nous ne sommes pas de purs esprits, nous sommes à la fois corps et esprit. Nous sommes comme ça. Et donc nous avons besoin de mettre des gestes visibles sur l'invisible, nous avons besoin d'avoir des symboles, des signes pour les réalités spirituelles. Le temple n'est qu'un symbole. Ce n'est même qu'un symbole qui complète ou qui en corrige d'autres, ajoutant à la mobilité, la légèreté du coffre de l'Alliance, du coffre de Moïse, une dimension de force, de stabilité, de magnificence. Sans doute nous faut-il faire comme Salomon et utiliser, oui, nos symboles courants pour dire les réalités spirituelles. Nous devons même parfois, comme lui, chercher de nouveaux symboles pour corriger ou compléter les symboles plus anciens quand c'est nécessaire. Salomon, lui, il ose compléter et corriger un symbole établi par Moïse lui-même, ou même établi par Dieu lui-même qui le transmet à Moïse. Et en remarquant que Dieu est trop grand pour entrer dans son temple, Salomon relativise le temple qu'il vient de construire, mais il relativise peut-être encore plus le coffre de Moïse. Il faut dire qu'un certain culte devenu un peu païen, devenu un peu idolâtre, existait autour de ce coffre et du bâton de Moïse, bâton prodigieux qui avait servi à ouvrir la mer Rouge, à faire couler une source dans le désert et bien d'autres miracles. Cette attitude de Salomon, elle peut nous encourager à nous réformer sans cesse, à reprendre ce que nous ont légué les générations précédentes, les prophètes qui nous ont précédés, comme le dit Jésus, et à être à notre tour prophétiques. L'essentiel de la réforme, c'est avant tout cela, je crois, c'est se sentir appelé à nous réformer sans cesse. Et puis peut-être à user des symboles religieux avec une certaine méfiance, avec une certaine réserve. À nous réformer personnellement, bien sûr, mais aussi à nous réformer collectivement, à purifier nos idées, purifier notre théologie, nos cultes, à réformer nos symboles et nos rites, et à les remettre à leur juste place, à ne pas les confondre pour Dieu. C'est ainsi que Salomon est fidèle à l'esprit de Moïse en étant mobile autrement, finalement, en transformant ce que Moïse a transmis pour le compléter et y tenir compte dans un contexte nouveau quelques centaines d'années plus tard. Nous retrouvons quelque chose, je crois, de ce génie de Salomon en Jean Calvin, dont nous fêtons aujourd'hui presque jour pour jour les 500 ans, puisqu'il est né le 10 juillet 1509. Nous pourrions à notre tour avoir cette sagesse de Salomon qui associe étroitement l'usage de symboles religieux, de symboles anciens et de symboles nouveaux, et de sérieuses réserves qui permettent de ne pas confondre le symbole et la réalité spirituelle qu'il désigne. Faire de la théologie, c'est essayer de penser et de dire quelque chose sur Dieu, sur son comportement. Et c'est un peu comme construire un temple pour son nom. Alors c'est utile de faire de la théologie, nous en faisons tous, nous en faisons ce matin, bien sûr. C'est utile, comme le temple de Salomon est utile, nous dit Salomon, cela aide, ça nous aide à prier, à chercher Dieu, à savoir qu'attendre de lui. Et cela nous aide aussi à rendre témoignage aux nations, aux peuples, de ce Dieu qui fait notre vie. Mais le risque est le même qu'au temps de Salomon, bien sûr, le risque de devenir idolâtre en confondant notre idée sur Dieu avec Dieu lui-même. Comme certains intégristes auraient pu penser que Dieu était plus dans le temple de Jérusalem qu'ailleurs, ou plus dans leur théologie, leur rite, que dans d'autres. Il nous faut donc la même détermination que Salomon, la même énergie collective pour bâtir notre théologie comme un temple pour Dieu, en complétant et en réformant ce que nous ont légué les générations précédentes, les Moïse qui nous ont précédés. Et il nous faut aussi la même sagesse, la même humilité, voire le même humour vis-à-vis de notre théologie, de nos rites, de nos valeurs que Salomon en avait pour son temple, temple qu'il avait mis 46 ans à construire avec toute l'énergie d'un peuple tout entier. Par exemple, quand nous disons, je ne sais pas, Dieu est amour, comme je vous le disais tout à l'heure dans l'annonce de la grâce, c'est très biblique, c'est très beau et dans un certain sens, c'est profondément vrai. Mais en même temps, chacun de ces mots est formidablement piégé, lourd de mille malentendus possibles. Nous avons donc besoin de ces mots, bien sûr, tirés de notre vocabulaire courant, notre vocabulaire de la vie de tous les jours, pour penser Dieu et pour dire Dieu à ceux qui nous entourent. Mais il est bon de faire comme Salomon, de construire nos temples, nos théologies, notre éthique, nos rites, avec détermination, mais aussi avec sagesse, avec humilité, avec un certain humour. Cela pourrait être un orgueil fou de la part de Salomon de construire une maison pour que Dieu vienne l'habiter. Et ça pourrait être un orgueil fou que de dire la moindre parole sur Dieu, car s'il est plus grand que le temple, plus grand que les cieux des cieux, il est plus grand aussi que toute parole dite sur lui, bien sûr. Mais quand même, Salomon construit un temple avec une saine humilité. Il construit très concrètement une place dans son existence pour rendre un culte à Dieu et pour rappeler cette présence à tous, juifs comme étrangers, au cœur de son peuple, au cœur de sa cité. Et pour cela, Salomon part de ce que lui ont légué ses pères, Moïse, David et les autres, et il reprend cela, le réforme, et il ajoute sa pierre, si je puis dire, à ce trésor, ce patrimoine. Ce qui est bien aussi, c'est que Salomon ne se contente pas de construire une maison pour Dieu. Il demande ensuite à Dieu de venir l'habiter. Il lègue ce temple avec son mode d'emploi, avec des réserves qui le relativisent comme un simple moyen pour aider à prier l'Éternel, Dieu qui est là-haut et qui reste là-haut dans les cieux, qui reste une réalité spirituelle invisible et transcendante. Alors pour ce qui est de notre théologie, de nos routes, de nos rites et de notre éthique, nous pourrions utiliser le même mode d'emploi. Ces symboles, ces rites, cette théologie ne marchent finalement que par la prière, que si l'on ajoute la prière, que si l'on demande à Dieu de venir habiter tout cela par sa présence et donner vie à ces symboles, à ces rites, à cette théologie, à cette éthique, par son souffle. Ce ne sont que de simples outils pour nous aider à penser à Dieu, pour nous rappeler son alliance, pour nous ouvrir à sa grâce, à son salut. Mais Dieu n'habite pas vraiment notre théologie, il est plus grand que nos rites. C'est pourquoi nous rappelons toujours, à l'occasion d'un baptême, et on l'a fait encore ce matin, que Dieu nous a aimés le premier, pour que l'on ne pense pas une seconde que c'est en mettant de l'eau sur les fronts de Charles que nous avons fait descendre la bénédiction de Dieu sur lui. Quelle puissance, quelle arrogance de dire à Dieu de siffler Dieu comme on siffle un chien pour qu'il arrive et qu'il fasse ce qu'il a à faire, qu'il ramène le journal peut-être, ou qu'il apporte sa bénédiction. Eh bien non, l'eau est signe de cette bénédiction de Dieu, de cet amour, de cette grâce qu'il a et qu'il a eu pour toujours, qu'il aura pour toujours, pour Charles. Mais c'est nous qui avons besoin de ces signes, de ces gestes pour rendre visible l'invisible et qui pourtant a une importance ultime. C'est par prudence aussi que nous ne célébrons pas la Sainte Cène chaque dimanche, pour nous rappeler qu'il y a là, finalement, que ce qu'il y avait dans le temple de Jérusalem, un signe de la présence de Dieu, un signe parmi d'autres, un signe qui vient corriger, compléter d'autres signes. Mais si nous restons conscients que ce sont des symboles, il est bien utile d'évoquer de façon visible cette invisible présence de Dieu et son salut qui transforme notre existence très concrètement, très matériellement. Cela peut nous aider à nous rappeler sa présence comme quelque chose qui est à vivre. Cela nous aide à nous rassembler aussi, comme nous le faisons ce matin, autour de ces symboles, comme Dieu nous rassemble en offrant son salut à tous. Salomon construit donc un temple immense dans lequel il dépose le coffre de l'Alliance. Le coffre et ses barres de transport est un appel à cheminer comme Abraham avait été mis en route par Dieu, comme Moïse et le peuple hébreu avaient sorti d'Égypte pour aller vers la terre promise, guidés par la présence de Dieu, par sa parole dans le désert. Mais le temple, bien solide et dépassant les autres constructions, est un beau symbole de la grandeur de Dieu. Et le temple peut nous mettre en garde contre un nomadisme spirituel où nous passerions d'une conviction à une autre au gré de notre humeur et des influences de l'instant. Donc on a besoin à la fois de la stabilité finalement du temple et de la mobilité du coffre. Salomon invite à prier face à cette double réalité de la présence de Dieu, de l'aide de Dieu, dans un solide enracinement et dans une mobilité. Le Christ reprend lui aussi cette symbolique du temple, mais il la spiritualise, il l'individualise encore un peu plus. Son temple, c'est son corps, habité par la présence de Dieu. Notre temple, c'est notre corps, puisque Dieu nous a donné son souffle. Il nous apprend à prier ainsi, Jésus, comme rentrant à l'intérieur de nous-mêmes et en priant notre Père qui est là, dans le secret. Le temple n'est plus alors une solidité de pierre, mais celle de notre être que Dieu garde, nous dit Jésus, que Dieu ressuscite même en 3 jours si l'on venait à le détruire. Il y a dans cette notion-là de temple une promesse de vie éternelle par la seule grâce de Dieu, par le seul amour sans condition que Dieu nous donne. Cette certitude joyeuse de la grâce de Dieu est une des intuitions lumineuses que Jean Calvin nous a offertes et que rappellent Olivier Abel et Jean-Luc Mouton, par exemple, dans leur livre. Mais si le temple devient le symbole du salut par la seule grâce de Dieu, la mobilité du coffre de Moïse nous appelle à la conversion, à la réforme permanente par la foi, par la confiance en Dieu. La vie, oui, est donnée par grâce, mais la vie est dans cette mobilité, dans ce cheminement qu'est le Christ. Et c'est justement la connaissance de la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous aime sans condition, de toute façon et toujours. C'est cette connaissance de cette grâce qui donne à l'être humain une vraie liberté, une vraie liberté qui lui permet de se mettre en route, de risquer de se mettre en route, de tracer son chemin, un chemin nouveau dans la conduite de sa vie. Dieu a promis de nous accompagner sur notre route. La route que nous choisirons de prendre, il a promis de nous pardonner, de nous aider à revenir, à nous convertir si cette route venait à n'être pas trop bonne. On comprend, dans un sens, la colère des intégristes de l'époque de Jésus, mais aussi des intégristes de toute époque, finalement, contre cette annonce de la grâce et de cette liberté qu'elle nous donne par la foi. Mais comme Moïse et Salomon, nous ne pouvons pas faire totalement l'économie de symboles pour évoquer la présence de Dieu, pour évoquer cette grâce qui nous fait vivre, pour en parler ensemble comme nous le faisons ce matin, et pour en témoigner autour de nous à nos frères et sœurs. Utilisons donc nos mots, nos rites, nos symboles, mais comme Salomon. Utilisons ces symboles avec humour et avec humilité. Utilisons-les pour nous aider à prier et prions pour demander à Dieu qu'il soit source non de mort, mais de vie. À Dieu seul soit la gloire. Amen.